Podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles, dit-on en Afrique de l'Ouest. Et les hommes que je vais vous présenter ce matin ne sont pas des poules mouillées. Ils ont eu le courage d'affronter, de surmonter pas mal d'obstacles pour réaliser leurs rêves, ici et au bout du monde. Au Mali, par exemple, où je salue Jean-Pierre Marquet. Ini Sogoma, Jean-Pierre.
Allez, cocaïne.
Vous êtes dans l'ancienne capitale de l'Empire, Bambara.
Ah oui, c'est un site magnifique avec des teintures, les Bogolans, des teintures naturelles, des tissus qui sont faits rien qu'avec des produits naturels et du recyclage.
C'est à Ségou où se déroule d'ailleurs pour l'instant le festival sur le Niger, un festival avec des artistes, des artisans. Ségou qui est jumelé avec Angoulême, ça ne s'invente pas. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lax, bonjour Christian.
Bonjour.
Lax qui a créé sa dernière BD pas loin de chez vous, au cœur du pays d'Ogon, je ne me trompe pas. Hein.
Oui, c'est vrai, oui.
Vous nous avez rejoint en studio, mais vous êtes allé là-bas dessiner votre dernier chef-d'œuvre qui s'appelle...
Une maternité rouge.
Avec pas mal d'influence sur un voyage fait il y a quoi, une dizaine d'années ?
Oh, il y a un peu plus de 10 ans, oui. Je suis allé traîner un peu au pays d'Ogon et j'en suis revenu avec pas mal de croquis de voyage, des photos, etc. Et puis voilà, je m'en suis nourri pour faire cet album.
Une maternité rouge raconte le parcours d'un migrant qui veut arracher une œuvre d'art des griffes des djihadistes et qui fait tout pour la protéger et la ramener dans le sein des saints. Ça pourrait être le musée de Tervuren, mais en l'occurrence, c'est le musée du Louvre. À Paris, une incroyable odyssée que nous allons mettre en parallèle avec celle de Ba et Yoro, qui est aussi des nôtres ce matin. Bonjour Ba.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien, Yoro.
Oui, mais très très bien. Je suis content de vous avoir tous là. Vous avez fait le chemin inverse de Jean-Pierre. Vous avez quitté l'Afrique de l'Ouest, non pas pour sauver une statuette, mais pour sauver votre peau, tout simplement. Ouais. Quand est-ce que vous êtes arrivé en Belgique, Ba ?
Je suis arrivé en Belgique en mars 2016. Et j'ai eu mes papiers en mai 2017.
Ah, donc vous êtes ici chez vous alors ?
Ouais.
Ah, super, ça me fait super plaisir.
Merci.
Vous avez lu La maternité rouge ?
Ouais, j'ai lu quelques pages, donc je n'ai pas encore fini tout le livre.
Une maternité rouge, ce sont tous des croquis, chaque page est une œuvre d'art. Il faut pas y aller trop vite, Christian, vous êtes d'accord hein ?
Ah oui, ça se déguste. J'ai mis suffisamment de temps pour la dessiner.
Vous nous direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Ce sera une critique amateur à côté de celle d'un pro, puisque Thierry Belfroy viendra nous livrer vers 9h30 sa lecture de La maternité rouge.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Les Belges du bout du monde entre le Mali et le Sénégal avec Jean-Pierre, notre Belge du bout du monde, Jean-Pierre Marquet. C'est au Sénégal, pays natal de Ba, qu'est née votre vocation pour le poisson. Racontez-nous un petit peu comment c'est arrivé.
Oh ben oui, tout à fait. Je suis arrivé là, j'avais fait mes 2 dernières années d'études chez les Pères Maristes. Et puis, je suis passé au secondaire, au lycée Van Vollenhoven. Et je suis resté là jusqu'en 68. Donc, ça fait 8 années passées à Dakar. Et là, bon, une des grandes distractions, c'était évidemment la plongée, la chasse sous-marine. Et je voyais des milliers de poissons, c'est extrêmement poissonneux. Et bon, je me suis intéressé aux poissons, je les ai étudiés. Et je me suis dit, bon, c'est avec ça que je veux travailler. Je veux organiser mes études pour pouvoir travailler dans le poisson, en pisciculture et en pêche.
Votre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Vous êtes passé par Jean Blou, Bukavu, Dakar, la République oui. centrafricaine, le Congo-Brazza, le Burundi, le Kenya,
oui.
Madagascar, Uganda. Le Cameroun, la Guinée.
Oui.
Je suis presque au bout. Hein. La Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Bénin, le Katanga. Oui. Et enfin, le Mali. Quelles ont été vos premières impressions en découvrant le Mali après ce grand tour d'Afrique ?
J'ai découvert le Mali, malheureusement, après une période un peu difficile. En 2012, ils ont eu cette espèce de guerre qui a pu être arrêtée par la France. Et les gens étaient un peu traumatisés, quoi. Donc, c'est un pays en reconstruction maintenant. Et il faut rétablir la confiance entre les ethnies, etc. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a les changements climatiques, il y a une pression démographique. Il y a ce problème des djihadistes. Donc, c'est une situation qui est un peu compliquée pour l'instant et qui a fortement ralenti le tourisme, notamment tous ceux qui allaient dans ce paysage magnifique des falaises d'Ogon, que j'ai eu l'occasion heureusement de visiter une fois en 2004. Mais on voit que le pays a beaucoup souffert de cette situation, quoi.
Et ça se sent dès les premières pages de votre BD, L'Axe. Ça commence un petit peu avant l'indépendance, hein, 1960. Et,
oui.
Et puis, on est en 2012 aussi, à l'époque décrite par Jean-Pierre, quand il est arrivé là-bas, les djihadistes. Tout ça, ça vous a marqué et nourri pour une maternité rouge ?
Oui, j'ai en commun avec Jean-Pierre, le livre a quelque chose en commun. Il y a aussi, il prend ses racines en 1968 aussi, ouais. Quelque part, puisque... un des personnages essentiels, celui qui est sur la couverture du livre, a fait ses études à l'école du Louvre en 68. Le facteur déclenchant de ce livre, c'est une visite tout à fait inopinée sur le quai d'Austerlitz à Paris, du camp de réfugiés, de migrants, qui est resté au pied de la gare sur ses bords de Seine pendant environ 2 ans. Je me suis retrouvé là tout à fait par hasard et j'ai été stupéfait et marqué par la situation très contrastée à cet endroit, puisque j'avais tous ces jeunes gens qui étaient sur le quai dans ces campements de fortune, dans des conditions très inconfortables, après avoir accompli un long et dangereux voyage. Et ils étaient installés là, sous la cité de la mode à Paris, sous l'emblème des richesses parisiennes, de l'opulence parisienne, au pied de ces bars en terrasse où les jeunes parisiens, c'était au mois de juin quand j'y étais, juin 2015.
Jettent des canettes,
ouais. Ou en tout cas, sont là à passer du bon temps au soleil ou sous les parasols de ces terrasses, sans trop faire attention à ce qui se passe à leurs pieds. Voilà.
Ouais, ouais. C'est marrant parce que vous nous dites, c'est le parallèle aussi chez nous entre la tour Beliacom, le Manhattan bruxellois et le parc Maximilien qui est juste en bas. Il y a ce grand écart entre deux mondes qui vivent au même endroit.
Oui, oui. Situation très contrastée et je suis resté là-bas un moment, j'ai traîné un peu, je me souviens avoir discuté avec un jeune Soudanais, voilà, j'ai fait 2-3 photos à la sauvette parce que je voulais pas avoir l'air d'être un voyeur, voilà, mais je me suis dit que je ferais quelque chose de cette situation-là, ça m'a trop marqué pour me laisser indifférent.
Ouais. Bah, vous êtes passé par un camp, c'était à Belgrade, je crois.
Oui, c'est à Belgrade où j'ai passé, j'ai fait une année presque. J'ai été très très bien accueilli et le collectif m'a aidé à s'installer ici. Et si je pars 13 ans en retard aussi, c'est grâce à eux, c'est eux qui m'ont déposé à la gare.
Pour participer à cette émission. On vous remercie beaucoup d'être là. On commençait l'émission en citant un proverbe africain sur le miel. Hein, celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Le héros de votre BD, L'Axe, est un chasseur de miel. Il y a ces fameuses ruches sauvages au cœur d'un baobab.
Oui. Alors, il a une particularité, c'est qu'il chasse le miel en ayant un collaborateur assez inattendu.
Avec des ailes ?
Avec des ailes, oui. Il chasse le miel avec ce qu'on appelle les oiseaux indicateurs. Alors là, j'avoue que Jean-Pierre va peut-être sauter au plafond parce que je ne suis pas certain que cette variété d'oiseaux si précieuse pour un chasseur de miel habite dans cette région du Mali. Mais j'ai découvert l'existence de cet oiseau de manière un peu hasardeuse et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement poétique, cet exemple de collaboration homme-oiseau qui est quasiment unique au monde, que voilà, je m'en suis servi.
Je confirme, c'est bien un oiseau indicateur de la présence de miel. Son nom scientifique, c'est Indicator indicator. Mm-hmm. Il vit beaucoup en Afrique, dans plusieurs pays. Et il attend, bien sûr, en contrepartie, de recevoir une partie du miel récolté par les humains, parce que lui, il ne peut pas attaquer la ruche tout seul sans se faire bouffer.
Oui.
Donc, tous les bons chasseurs de miel réservent toujours une part pour l'oiseau indicateur qui leur a indiqué l'endroit. Et parfois, ils les traînent sur 1, 2, 3 kilomètres. J'ai vu ça chez les pygmées en Centrafrique. C'était super intéressant. Ils se font parfois prendre dans des grandes toiles d'araignées avec des araignées monstrueuses, mais ils cherchent à éviter et ils indiquent la présence de miel dans les trous d'arbres et les endroits où les abeilles s'installent, quoi.
Et je crois avoir compris que ces indicateurs ont la particularité de digérer la cire d'abeilles. Et c'est ce qui les conduirait à collaborer avec l'homme.
Là, je ne veux pas répondre, mais je sais qu'ils sont très amateurs de miel et qu'ils rendent de grands services aux chasseurs de miel.
le miel avec ses bienfaits aussi pour la santé. On vous souhaite d'en mettre une petite cuillère peut-être dans votre café ou votre thé ce matin ou sur votre baguette. Excellent petit déjeuner à l'écoute des Belges du bout du monde. On reste au Mali avec M et cette magnifique chanson Manitou Mani.
Les Belges du bout du monde sur la première.
C'était M avec Toumani Diabaté et Sidiki Diabaté aussi. Mani Toumani, ça pourrait être la BO de la BD de L'Axe. Notre invité ce matin, votre dernière BD, Une maternité rouge, nous emmène au Mali où vit notre Belge du bout du monde, Jean-Pierre Marquet. Et puis avec nous aussi, Bayoro, ce matin dans Les Belges du bout du monde.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Alors quand on parle de BD, il n'est jamais loin. Bonjour Thierry Belfroy.
Bonjour Christian, bonjour Adrien.
Bonjour Thierry.
Alors ça nous fait super plaisir de vous accueillir en studio un dimanche matin Thierry.
J'avais envie de faire un petit coucou aux Belges du bout du monde et à Christian. Hein. On s'est vu il y a très peu de temps à Angoulême et je lui ai dit tout le bien que je pensais de cette maternité rouge. Je m'en voudrais de ne pas vous dire à quel point ce livre est fabuleux. C'est un livre qui va à l'encontre de tout ce qu'on dit pour le moment sur le retour des œuvres d'art, hein, les œuvres qui sont dans les musées européens, et notamment en Belgique, Africa Museum, à Tervuren, et qui devraient retourner là d'où elles viennent, hein, en Afrique. Ici, c'est l'inverse. Et je trouve que Christian le fait avec une grande intelligence, puisqu'il s'agit de l'histoire d'une maternité, donc une statuette de la maternité, et qui devrait normalement rester en Afrique, au Mali, mais à ce moment-ci, eh bien, c'est lui faire courir un risque majeur parce que les islamistes ne veulent pas de ces représentations. Et donc, pour sauver cette petite statuette de la maternité, un homme va la confier à un jeune garçon et dire à ce jeune garçon « il faut que tu ailles la déposer au Louvre ». Là, au moins, elle sera sauvée pour le reste de ses jours. Et c'est une histoire magnifique, c'est une histoire bouleversante, c'est une histoire extraordinairement humaine que Christian propose. Et vraiment, quand on arrive au bout, je ne dirais pas qu'on a les larmes aux yeux, mais on est quand même très, très, très ému. Non pas du destin de cette statuette, mais de tout ce qui est passé au travers, de tout ce que l'album livre en sous-couche sur notre humanité et notre monde d'aujourd'hui.
Ouais, je crois qu'il a compris le message, Thierry Belfroy, Christian Lex.
Oui, je le remercie beaucoup. Je suis touché par son opinion, par son témoignage.
Jean-Pierre, vous êtes là à Ségou, où se tient justement le Festival d'art sur le Niger ce week-end encore. C'est un thème d'actualité, tout cet art dogon que l'on retrouve soit à l'Africa Museum de Tervuren, soit au Louvre.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'artisans qui présentent d'ailleurs encore des objets en provenance du pays dogon, où les gens souffrent beaucoup pour l'instant, parce que c'est une période très dure pour eux. Et malheureusement, ils vendent pas mal de leurs statuettes ancestrales. Je dois souligner aussi qu'à Ségou, il y a un quartier qui s'appelle Angoulême, même, pour rappeler le lien avec cette
origine. Il y a d'ailleurs une syllabe en commun, Ségou-Angoulême.
Ouh, joli. Oui,
je viens de m'en rendre compte.
On voit l'homme de lettres aussi, puisque vous écrivez, vous scénarisez vos livres, puis vous les dessinez. Une maternité rouge, on le rappelle, un récit engagé aux côtés de celles et ceux qui subissent la violence, la misère et la guerre, et tentent de rejoindre les rives de l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure ou pour sauver une œuvre d'art, dans le cas d'Alou. Racontez-nous peut-être votre parcours à vous. Vous avez quitté le Sénégal. Contrairement à Alou qui est parti par la Libye et l'Algérie, vous êtes passé par la Mauritanie ?
Oui, je suis passé par la Mauritanie et puis le Maroc. J'ai fait 2 à 3 tentations pour pouvoir aller en Espagne.
2 à 3 tentatives,
oui. Oui, oui.
Comment vous êtes parti et pourquoi vous êtes parti ? Racontez-nous.
Je suis parti en 2012 pour ma première fois. J'ai quitté Dakar pour aller en Mauritanie. Et j'ai quitté Nouakchott pour aller à Casablanca. Et quand je suis arrivé pour la première fois, j'étais accueilli avec des jeunes migrants qui voulaient la traverser. Et j'avais quitté parce que j'avais un problème au pays. Donc, ma vie était menacée. Donc, j'ai risqué la prison et tout. Je me suis dit, je vais tenter de traverser pour l'Espagne. Et à chaque fois qu'on partait, on croisait les gardes-côtes du Maroc et on nous ramenait. Donc, moi, j'ai eu la chance j'ai échappé à la mort, je peux dire. Parce que on a vraiment souffert avec les policiers marocains et les gars qui voulaient les passeurs aussi. Donc on nous a même tabassé et tout. Notre dernière tentative, on était perdu en mer. Parce que quand vous parlez de l'oiseau indicateur, c'est un oiseau qui nous a indiqué.
C'est vrai?
Ouais.
Un oiseau qui vous a indiqué la route?
Ouais, la route. On était perdu. On ne savait pas où aller. Donc il y a un oiseau qui est venu, un oiseau blanc, qui est venu pour la première fois et il est reparti. Il est venu pour la deuxième fois, il est reparti. Il a fait ça pendant 3 ou 5 fois. Et il y a un gars qui a dit, et si l'oiseau-là nous montrait la route, quoi? Donc en commençant par moi, quoi, on a dit, ne te fous pas de nous, ça ne peut pas. On est en train de réfléchir pour voir où passer. Donc celui qui avait la commande du bateau a dit, s'il revient, on va le suivre. Et l'oiseau est revenu, il est reparti, on l'a suivi. Et quand on l'a suivi, on a croisé les gardes-côtes marocains qui nous ont ramenés au Maroc.
Quelque part, ça vous a sauvé la vie.
Super.
Ça nous a sauvé la vie. Nous, moi, je me dis que je dois la vie à cet oiseau.
C'est magnifique.
Ouais. Ouais. Super histoire.
Voilà presque un sujet d'album.
Oui, ouais, c'est vrai, c'est bouleversant, hein, votre témoignage. Bah, merci de nous l'avoir raconté. Jean-Pierre, bah, vous travaillez aussi pour que des gens comme Bah puissent vivre dans leur pays. Vous essayez de combattre la pauvreté, la misère. Vous essayez de favoriser les cultures, la pisciculture en l'occurrence. Comment ça se passe, ce développement rural intégré, Jean-Pierre?
Bon, il y a plusieurs volets, parce qu'on s'occupe de pêche également, et le Mali est une grande zone de pêche qui a en moyenne 100 000 tonnes de capture annuelle, mais dans des zones très, très reculées. Et avec le climat qu'il y a, la chaleur, et le poisson ne tient pas le coup longtemps. Les chaînes de froid ne sont pas continues, donc on essaye de l'améliorer en fournissant de la glace et des caissons isothermes à la filière, de la pirogue à l'étal, je dirais, et aussi, surtout, à limiter les pertes post-récolte. Parce que compte tenu de ces situations-là, il y a presque 60% des poissons capturés qui doivent être transformés pour pouvoir être consommables, quoi. Et donc les techniques traditionnelles de fumage et de séchage sont restées assez basiques et mériteraient de sérieuses améliorations. Donc on forme à tour de bras des marieuses à des techniques plus avancées en matière de séchage, de salage et de fumage de poissons, qui permet d'augmenter la conservation de ce poisson sur plusieurs mois au lieu d'une quinzaine de jours. Par ailleurs, avec l'augmentation démographique et la surpêche, il y a de moins en moins de poissons pour nourrir toute cette population. Il faut développer également des systèmes de pisciculture. Et ils sont multiples, ça va de l'empoisonnement des mares communautaires à la rizipisciculture, à l'élevage en étang ou en bac, et des tentatives de rentabilité d'élevage en cage dans le fleuve.
Le fleuve Niger, vous vivez devant le fleuve, vous voyez le fleuve de votre bureau là quand vous nous parlez?
Alors, presque. Tous les matins je le vois puisque je prends ça vraiment au bord du fleuve à l'hôtel Esplanade, qui est un endroit magnifique à Ségou, proche de l'endroit où va se dérouler le festival du Niger. Et le spectacle est permanent, quoi. Il y a les pêcheurs qui jettent leur épervier, d'autres qui ramassent les filets, d'autres qui passent avec du sable. C'est un spectacle permanent, quoi. C'est très joli.
Très belle scène hein, pour un dessinateur de BD, cette pêche à l'épervier avec ce lancer fabuleux, hein, oui, Christian.
Absolument.
Quel équilibre, hein. Oh, fantastique.
Travail d'artiste, hein.
Oui. Ah, je me rappelle avoir fait un croquis du côté de Mopti. C'est le fleuve Niger aussi qui passe à Mopti, il me semble.
Oui, tout à fait.
D'une barque avec un type qui pêchait aussi, comme ça. Ouais.
C'est indiscret de vous demander votre métier, ce que vous faisiez avant de quitter le Sénégal. Vous viviez de la terre, de la pêche, vous étiez artisan, qu'est-ce que vous faisiez?
Avant de quitter le Sénégal, j'étais agent de sécurité.
Agent de sécurité?
Oui, donc j'avais fait l'armée 2 ans et après on m'a mis en réserve, donc j'ai été postulé pour être agent de sécurité. C'est ça que j'ai fait avant de venir ici.
Et vos parents, c'était dans un petit village qui était aussi lié à l'agriculture?
Mes grands-parents, c'est plutôt avec l'élevage.
Les Peuls, ce sont des éleveurs.
Les Peuls sont des éleveurs.
Ouais.
Donc, moi, mes grands-parents, ce sont des Peuls modernisés, je peux dire. Donc, eux, ils n'avaient pas de vaches ni de moutons. Tout ce qu'ils demandaient, c'est d'aller à l'école, quoi. C'est pour ça que je ne connais pas trop ni la pêche, ni l'élevage, quoi.
Allez, on va marquer une pause et puis on va continuer à arpenter le Sénégal et surtout le Mali à la rencontre de ces hommes et de ces femmes descendants des plus grands empires africains.
Les Belges du bout du monde.
9h-10h sur la première.
Avec Adrien Jouvenot.
Deuxième partie des Belges du bout du monde. Nous sommes toujours entre le Mali et le Sénégal avec trois hommes d'exception. Jean-Pierre Marquet, Christian Lax et Bayoro. Quelques notes du griot guinéen Morikante pour nous accompagner sur la route en Afrique de l'Ouest, où l'on dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est signé Ampaté Ba, l'auteur malien, et ça pourrait être la préface de votre livre. Hein, là, on est un petit peu dans cette importance de la mémoire, préserver notre patrimoine culturel.
Ça pourrait. D'ailleurs, j'ai lu le livre de Mamadou Ampaté Ba peu de temps avant de démarrer mon livre. Et je pense que le personnage du Ogon, qui est dans mon bouquin, est inspiré de cet homme.
Ça m'y faisait vraiment penser, ouais,
absolument,
tout à fait.
Ouais, ouais, oui, oui. Ouais. Il y a ce désir d'apprendre, de savoir, de se hausser à travers la culture qui transparaît énormément à travers les écrits de Mamadou Ampaté Ba.
Oui, c'est vrai. Conserver les traces des générations précédentes. Alors nous, on vénère Rimbaud, on vénère etc. Mais il y a aussi de très grands auteurs africains,
absolument,
des grands artistes, etc. Mmh. Et donc, le maître du Titam, enfin tous ceux que vous mettez en avant dans votre livre, et vous avez bien raison. Jean-Pierre, vous, on va parler de vos générations descendantes. Vous êtes marié, vous avez trois enfants, vous êtes déjà grand-père ?
Ah oui, quatre fois.
Ouais, pas mal.
Donc j'ai trois enfants, écartés d'un bail 3-6-9, donc un fils de 39 ans, une fille de 36, une autre de 33, qui ont tous un parcours un peu exotique aussi, puisque mon fils est parti au Congo, ma fille à Maurice. La première et la deuxième fait des post-docs sur post-docs au Portugal, à Faro.
Donc si j'ai bien compris, les chiens ne font pas des chats. Enfin, ils sont comme vous, quoi. Hein. Ils voyagent beaucoup, ils sont sur la route. Vous êtes à Ségou, ville du Mali, le long du fleuve Niger. Vous y travaillez depuis quelques années. Avant ça, il y avait une autre ville, c'était Sikasso. Quelle est celle qui est la plus chère à votre cœur? Ou bien pour vous, le Mali, c'est passionnant partout?
Bon, il y a des coins sympathiques partout. Sikasso était plus arrosé, donc c'est plus favorable à la pisciculture. Mais la zone de pêche de Ségou est aussi très intéressante parce qu'il y a énormément à faire avec toutes les irrigations faites par l'Office du Niger. Il y a un potentiel énorme qui est encore très sous-exploité pour l'instant en matière d'irrigation et d'aquaculture, quoi.
Alors, vous travaillez beaucoup. Est-ce que vous avez le temps, peut-être un dimanche comme aujourd'hui, d'avoir un peu de loisir, de faire autre chose?
Oui, bien sûr. On va faire des petites sorties en pirogue, voir des... Il y a notamment un village de potières qui fait des poteries extraordinaires, vraiment à main nue. Et au lieu d'avoir un tour comme on a en Europe qui fait tourner l'argile pour monter le pot, eh bien c'est elle qui tourne autour du pot et qui le monte progressivement et qui font des poteries absolument incroyables. J'ai pris des petites séquences vidéo de ça, c'est magnifique à voir. Donc elles tournent vraiment autour du pot et elles arrivent toutes les semaines pour le marché du lundi à Ségou, à vendre, mais des centaines de pots qui vont être expédiés dans tous les coins de la région Ouest-Afrique.
Au niveau des loisirs, figurez-vous, l'axe que Thierry Belfroy a trouvé un point commun entre vous et moi.
Alors je sais, Adrien, à quel point le vélo est important dans votre vie. Hein, il ne faut pas le dire, tout le monde le sait, vous n'en faites aucun mystère. Eh bien, il l'est aussi dans la vie de Christian Lax, qui a, sous le titre de « Échappée belle dorénavant », puisque c'est une intégrale qui reprend trois de ses albums, livré des magnifiques histoires liées à l'histoire du vélo, « L'aigle sans orteil »,« Pain d'alouette » et « L'écureuil du Veldive », donc désormais réunis sous le nom de « Échappée belle ». Et l'histoire du vélo, eh bien, l'a mené, Christian, jusqu'au cœur de cette maternité rouge, puisque l'album a failli ne pas voir le jour à cause d'un accident de vélo. Terrible accident en 2017, 14 fractures et 8 mois d'immobilisation. Et je trouve que quand on arrive au bout d'une histoire comme celle-là, en se battant contre son propre corps, contre le corset qui vous emprisonne les côtes, eh ben, remonter sur son vélo a encore plus de sens. Et surtout, faire ce métier, dessiner, être à la planche à dessin, river à la planche à dessin pour raconter le destin des migrants d'aujourd'hui, eh bien, ça a aussi trouvé un sens différent à travers cette terrible histoire d'accident.
Ouais, chapeau l'artiste, parce que remonter en selle, comme on dit souvent à vélo ou à cheval, après une telle chute, fallait le faire, puis remonter à sa planche, ça a dû être très très difficile.
J'avais le désir de remonter doublement en selle, à savoir surtout de pouvoir redessiner, parce que pendant quelques mois, je me suis demandé comment je parviendrais à le faire. Et à ce moment-là, il ne fallait pas me parler de vélo parce que le vélo m'avait fait trop mal. Mais après, j'ai commencé par redessiner. Et puis, quelques mois plus tard, l'irrésistible envie de remonter sur un vélo s'est manifestée. Et je suis aussi remonté sur le vélo. Même si c'est parfois avec quelques craintes, j'avoue que je suis un peu plus crispé qu'auparavant quand j'entends une voiture rugir derrière moi. Mais voilà, ce plaisir est incontournable pour moi.
Alors, vous avez un petit texte qui s'appelle « Après coup », après la BD. Vous racontez cet accident et puis la genèse aussi d'une maternité rouge. « J'ai fait naufrage », écrivez-vous, le 25 février 2017, alors que je naviguais dans les parages de la 100e planche de ce livre. Je n'étais pas sur un raffio au large de l'Italie, mais sur une route de campagne ensoleillée sur mon vélo. Nullement embarqué pour sauver ma peau dans un voyage inhumain à l'issue très improbable comme Alou ou comme qui est avec nous en studio ce matin, mais sur de larges lacets que j'ai parcourus tranquilles des centaines de fois avec bien d'autres projets que d'endosser le premier rôle dans un crash test qui allait me catapulter sur un chemin tellement inhospitalier. Vous avez fait surface à l'hôpital le lendemain en post-urgence avec 14 fractures. Vous avez mis 8 mois pour vous remettre. Et pour terminer cette BD, c'est incroyable. Vous l'avez arrêté à la page 100. Et moi, j'ai regardé, il n'y a aucune différence dans les dessins. Et je me suis dit, tiens, j'étais un peu curieux en disant, tiens, est-ce qu'il a gardé son agilité, son adresse, etc. Mais vous n'avez rien perdu.
Non, ça a été la divine surprise parce que j'avais peur de ça. Au début, j'avais du mal à me remettre au dessin parce qu'au bout, quand j'étais à la table devant ma page blanche, au bout de trois quarts d'heure, une heure, j'avais mal partout. Donc voilà, il a fallu que je réapprivoise aussi ce temps sur le plan physique, quoi. Et puis après, je me demandais si j'allais retrouver mon savoir-faire, ma cuisine personnelle. Et j'ai retrouvé tout ça très naturellement. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas finalement. Voilà, et c'est vrai que je suis très heureux d'avoir pu constater et d'entendre cela de votre bouche, Adrien, et puis d'autres aussi qui me l'ont dit, qu'on ne voit pas la différence entre l'avant et l'après-accident.
Alors, vous êtes remonté sur des skis. Vous avez commencé par le ski, mi-avril 2018, donc 14 mois après l'accident dans les Hautes-Alpes. Et puis, deux jours plus tard, vous écoutez, j'adore ce paragraphe, par le chemin de Halage qui remonte le Rhône, au pied de Bugey. Vous frôlez Super Phoenix, l'énorme centrale nucléaire en déconstruction depuis 1997, hein, je le dis à la Belge. Elle ne produit pas la moindre énergie, tandis qu'au fil des kilomètres, sur un vélo que j'inaugure, je migre doucement vers la reconstruction de la mienne. Super Phoenix, écrivez-vous, c'est moi.
Oui, je ne suis pas très modeste là quand même.
Ben non, mais vous êtes le héros d'une vie quand même. Cet accident, 14 fractures. Et puis remonter sur un vélo et sur votre planche à dessin pour terminer une maternité rouge, c'est pas rien.
Oui.
C'est un peu comme notre héros. Vous savez que il a un point commun avec vous, il fait du vélo. Je vous ai appelé hier soir à 22h, c'est vrai. Hein,
ouais.
À 22h, je vous ai appelé hier.
22h.
C'est ma spécialité, hein, mais toujours les dernières minutes. Je l'ai appelé à 22h hier et vous m'avez dit « Oh, excusez-moi, je suis à vélo ». Vous étiez à qu'est-ce que vous faites à vélo à 22h?
En fait, j'étais à la salle de sport pour faire du vélo. Comme la salle, ça ferme à 22h. Et je dis, j'ai pas terminé, je devais faire 1h30. Donc, j'ai pris mon vélo, j'ai roulé pour faire 1h30, en fait, pour compléter.
Ah, parce que vous vous imposez 1h30 de sport par jour?
Pas par jour, tous les lundis et les mercredis et les samedis aussi.
Ouais, bah, bravo, franchement... incroyable, oui. C'est bien.
Moi, je suis un peu comme ça. Il m'arrive, quand j'arrive au retour d'une sortie, si je n'ai pas tout à fait parcouru le nombre de kilomètres que je voulais, je refais un petit tour.
Oui. Et vous faites du vélo dans le noir,
Oui.
Vous mettez un gilet jaune ou...
J'ai mis un gilet qu'une dame m'a offert comme ça dans la rue parce qu'elle trouvait très dangereux que je roule sans gilet. Elle me l'a donné.
Ok, mais comme ça, on peut vous voir de loin. Ouais. Très, très bien. Et à propos de vélo, l'axe, je voudrais quand même que vous éclaircissiez un mystère. J'ai lu que vous dédiez votre livre à un certain Christian M.
Oui.
Est-ce que ce ne serait pas un Belge?
Si, bien sûr, que vous devez connaître. C'est un Belge que j'ai rencontré sur les pentes du Mont Ventoux à l'occasion d'une émission de radio bien connue qui s'appelle Le Beau Vélo de Ravel, Adrien. Et voilà, et on est resté amis avec Christian. On se voit de temps en temps. Il a aussi été victime d'un automobiliste à une époque, alors qu'il était sur son vélo. On a ça en commun. Et quand il a appris mon accident, j'étais à l'hôpital peu de temps après l'accident, à un moment où ça allait très mal. Il m'a écrit une lettre magnifique qui m'a fait pleurer tellement elle était belle et qui m'a aidé à, parmi d'autres témoignages amicaux comme ça, à surmonter mes difficultés du moment.
On peut donner son nom parce que vous dites juste Christian M.
C'est Christian Merveille, oui.
Ouais. Salut Christian. Le vélo au Mali, j'imagine c'est trop dangereux, Jean-Pierre Marquet.
Non, il y a beaucoup de vélos ici. Ils ne sont pas de toute dernière génération, mais en ce qui me concerne, j'ai acheté un vélo électrique à Spa.
Ah, pas mal.
Parce qu'il y a des côtes assez méchantes pour arriver dans les fagnes. Et là, arriver sur les hauts plateaux, il y a des promenades splendides à faire. Donc, j'ai trouvé ça fantastique, cette petite aide électrique. Il faut pédaler quand même, mais ça permet de rendre le vélo encore plus agréable qu'il n'est.
Est-ce que vous avez un proverbe africain, peut-être pour nourrir notre esprit lors de nos prochaines sorties à vélo, Jean-Pierre Marquet?
Ah, mais tout à fait. J'en ai un très beau qui vient du Sénégal, qui dit « On ne peut pas attraper avec une seule main le margouya derrière le baobab ». Ça veut dire qu'il faut l'entraide, il faut se mettre à plusieurs pour réussir quelque chose.
Oui.
Et c'est un sport formidable, je trouve.
Ouais, c'est beau, ça fait un peu l'union fait la force.
Voilà, notre fameuse devise.
Oui, mais en plus imagé, en plus, plus exotique. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va continuer à voyager au Mali avec un superbe tandem, Amadou et Mariam, sur la première.
Les Belges du bout du monde, sur la première, Adrien Jouvenot.
Bye bye, Sabali, la vie est belle, précieuse et fragile. C'était Amadou et Mariam, le couple de musiciens non-voyants qui cartonnent au Mali et sur toute la planète avec un son très très actuel, sans renier leurs racines. Nous sommes au Mali, ce matin jusqu'à 10h, avec le pisciculteur Jean-Pierre Marquet, le dessinateur Christian Lax et Bayouro, notre invité.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Christian, dans toute votre œuvre, on sent une profonde compassion pour les laissés pour compte que notre société ultra-libérale broie souvent en Afrique, avec le parcours des migrants que vous retracez dans Une maternité rouge, mais aussi en Europe. Dans votre première BD, des mots pour le dire, vous évoquiez, si je ne me trompe pas, le destin de votre frère.
Oui, j'ai grandi avec un frère lourdement handicapé. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'a construit, qui a fait que je suis devenu aussi sans doute un raconteur d'histoire, parce que Yves était cloué à la maison et j'étais son seul regard sur le monde. Donc je lui racontais ce que je faisais à longueur de journée, j'inventais pour lui des histoires, je dessinais déjà, j'avais 7 ou 8 ans, des petites histoires dessinées pour l'occuper. Enfin voilà, tout ça c'est mon socle. Et puis après, c'est vrai que le problème du handicap et des laissés pour compte est assez récurrent dans mon boulot. L'aigle sans orteil, comme le titre l'indique, est un jeune homme qui parvient à se hisser sur les plus hauts sommets du Tour de France en ayant été amputé de ses orteils.
D'ailleurs, le vélo, dans toute votre œuvre, dans les trois, c'est souvent la métaphore de la souffrance et de la dignité des petits, des humbles.
Oui, c'est un moyen de se surpasser. C'est à la fois un ascenseur social, mais c'est aussi une manière de se transcender et de faire d'un handicap une qualité, finalement. C'est un instrument de conquête. Ça l'est aussi pour moi.
Ouais. Avec un petit moteur pour Jean-Pierre Marquet au Mali, mais c'est bien. Mais
je trouve ça génial et je suis absolument pour le vélo électrique. Ça permet à des gens qui n'auraient peut-être pas osé ou se seraient peut-être pas senti les capacités d'enfourcher un vélo, de monter dessus et finalement de s'offrir des belles balades. C'est très bien.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça met tout le monde en selle. Mmh. Ça permet aux plus âgés, aux personnes peut-être en surpoids ou aux moins sportifs, d'aussi goûter à l'air libre, à ces balades exceptionnelles. Jean-Pierre, vous vous promenez sur des pistes en latérite, vous vous promenez le long du Niger. Racontez-nous un peu les sorties que vous faites avec votre petite reine ou avec madame, ou les deux.
Non, mais madame, malheureusement, elle est restée en Belgique. Elle s'occupe des enfants et les conditions sécuritaires sont aléatoires pour l'instant. Donc, je suis seul ici, mais on se revoit fréquemment lors des vacances scolaires et autres. Et donc, le vélo ici, je n'en fais pas au Mali, j'en fais en Belgique. On fait plutôt des balades en pirogue et des excursions dans différents villages aux alentours.
Vous êtes très demandé, hein, même le dimanche, c'est peut-être madame, hein, vérifiez si c'est madame qui vous appelle. Jean-Pierre qui est dans son hôtel face au Niger, le fleuve qui arrose le Mali, qui passe par Tombouctou, voilà, toutes ces villes légendaires. Vous êtes allé à Tombouctou ?
Non, je vois passer le bateau devant l'esplanade vers Tombouctou, mais on n'a pas le droit d'y aller parce que pour des raisons sécuritaires, on ne serait pas assuré sinon et...
Si vous avez besoin d'un garde sécurité, j'en connais un bon. Hein. Il est en face de moi, c'est Bayoro qui est arrivé en Belgique après un parcours de migrant, un parcours de combattant. On en sourit aujourd'hui, et c'est bien bah, parce que vous êtes en sécurité chez nous. On est très content que vous ayez pu obtenir votre demande d'asile. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce parcours que vous avez vécu, sur votre accueil au centre de réfugiés de Belgrade, à Namur ? Racontez-nous un petit peu votre sentiment.
Déjà, le temps d'attente, elle est très longue. Parce que nous, on a attendu au centre pendant presque une année ou plus. Donc, pendant toute l'année qu'on est au centre, on reste là, on ne fait rien, à part manger, dormir. C'est vrai que la Croix-Rouge, elle essaie de proposer des formations, des cours d'intégration. Mais heureusement qu'il y a le collectif de citoyenneté de Belgrade qui était là, qui vient nous donner des vélos, et qui cherche des contacts pour trouver des maisons, parce que c'est très difficile une fois que ta demande a été acceptée. C'est pas facile de trouver un logement.
Oui, bien sûr, parce que les propriétaires sont souvent méfiants. Hein. Ils veulent pas louer, hein. Faut pas se voiler la face, c'est clair. Voilà. Il y a quand même là aussi un acte de racisme. Vous avez trouvé facilement un logement là-bas ?
Oui, pour moi ça a été très très facile. Pour moi ça a été très facile parce qu'il y a un couple belge, Thierry et sa femme Sylvie, que je salue au passage, et qui m'ont beaucoup aidé. Quand je suis parti faire la visite, on a rencontré le propriétaire. Il m'a dit oui, ça va, il n'a pas ce problème-là. Et voilà, ça a été très facile pour moi. Quand je suis sorti du centre, en fait, j'ai eu aussi la chance de trouver très vite un boulot dans la restauration.
Ah d'accord, qu'est-ce que vous faites alors ? C'est quel genre de job ?
Là, j'étais dans la restauration, dans la petite restauration. Après, j'ai quitté, je me suis dit, c'est pas trop ce que je veux. Moi, je veux un métier beaucoup plus manuel. Donc, je me suis inscrit à une formation pour la soudure. C'est pas facile pour nous parce qu'il y a personne qui viendra nous réveiller. Parce qu'on n'a pas trop d'informations, que ce soit au niveau du CPS. On ne sait pas à quoi on a droit. Ils ne nous disent jamais. Donc, il faut que tu vois quelqu'un qui est du collectif, qui dit, tu as droit à ça, tu as droit à ça. Mais sinon, c'est nous qui dépensons de l'argent et tout, alors qu'on a droit à quelques revenus. Mais on ne nous dit jamais ça. C'est un peu aussi, je trouve qu'on est accompagné, mais mal accompagné, je dis. Très mal accompagné, parfois.
Message reçu, vous faites bien de le dire. Hein, mais pour la liberté d'expression, vous dites absolument ce que vous voulez.
Merci.
Merci en tout cas à vous d'être venu nous parler ce dimanche matin dans les Belges du bout du monde. Justement, la Belgique, Jean-Pierre Marquet, quand on est expat comme vous, depuis sa naissance, hein, parce que vous êtes né à Spa, mais tout petit, déjà vous étiez au Congo, au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Ouganda, au Bénin, j'en passe, c'est des meilleurs, au Sénégal évidemment, et puis maintenant au Mali. Est-ce que la Belgique vous manque ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent ?
Il y a des choses qui manquent, comme les moules frites, des petits plats gastronomiques un peu bien raffinés, le confort à la belge, et surtout la saison de collecte des champignons. J'adore partir en forêt, collecter des morilles, des bolets, enfin tout ce qu'on peut trouver en forêt, et la saison des myrtilles également. Tout ça en famille, on revoit les petits-enfants qui reviennent avec le visage tout bleu tellement ils en ont bouffé, même le chien. C'est fantastique, j'adore ça. Mais bon... C'est bien de partager son temps, de voyager, de connaître d'autres mondes, d'autres habitudes. Je me plais bien comme ça. J'ai une vie que je ne regrette pas du tout.
Et puis, au-delà des choses, il y a aussi les gens. Hein. Je crois que, comme vous êtes loin de ceux que vous aimez. Vous êtes loin de votre famille, loin de votre maman. Vous aussi, vous êtes loin de votre femme. Jean-Pierre, ça a un prix, hein, cette liberté. Ce n'est pas toujours facile, j'imagine.
Jusqu'en 94, on était tous ensemble en famille avec des écoles belges au Bujumbura, des facilités. Mais à partir d'un certain temps, pour la scolarité des enfants, on a préféré faire cette vie de maribataire pour joindre l'utile à l'agréable, je dirais.
Maribataire, c'est pas mal ça. Donc c'est marié, mais en même temps célibataire.
Voilà, on se voit fréquemment pour toutes les vacances scolaires et des retours aux fêtes de fin d'année, quoi.
Ok, ben merci en tout cas de nous avoir fait partager aussi votre univers, votre façon de vivre très très particulière, très très originale et très enrichissante pour vous et puis pour les autres, hein, parce que vous participez aussi à la construction d'un monde plus solidaire et plus juste en apportant votre savoir et en le partageant là-bas au Mali. L'Axe, vous êtes pour le week-end en Belgique, il y a une expo au Centre Belge de la Bande Dessinée. Qu'est-ce que vous allez montrer? Qu'est-ce qu'on va voir de particulier? Ce sont les planches d'une maternité rouge?
Oui, on va voir une trentaine de planches originales de la maternité rouge au Centre Belge de la Bande Dessinée.
Ah, c'est bien ça.
J'en suis très heureux, c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être exposé dans cet endroit prestigieux de Bruxelles. Pour moi, c'est prestigieux. De toute façon, la Belgique est tellement le pays de la bande dessinée. Vu de France, on a l'impression que c'est un pays de cocagne pour la BD.
Oui, vous allez voir des BD partout sur les murs. Il y a des fresques, et puis ce temple de la BD, le Centre Belge de la Bande Dessinée, où vous exposez une maternité rouge. Merci beaucoup, Lax. Merci aussi à Paul Michel qui réalise cette émission Les Belges du bout du monde. La semaine prochaine, nous serons à la Foire du Livre de Bruxelles. Bah, justement, on va continuer à voyager avec les superbes bouquins de nos auteurs que nous mettrons en avant. Dans une poignée de secondes, sur la première, juste après le journal de 10h, ce sera Marie Van Kutsem avec les décodeurs RTBF. Excellent dimanche à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye.
Merci.
Merci. Au revoir Jean-Pierre.
Au revoir.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Podcast.